Écoutez, Radio Campus Lille, il est 14h.
Salut, salut.
Le témoignage que vous allez entendre, il a été enregistré le 6 avril 2018 dans un bistrot de l'île Five. Il est consacré aux circonstances de l'accident du TER qui a coûté la vie à deux personnes en décembre dernier dans le quartier. Deux petits mots du coup pour rappeler brièvement les faits et situer un peu le propos. Le 15 décembre, en début de soirée, quatre potes du quartier, Selom, Mathis, Aurélien et Ashraf, se trouvent à l'entrée de la cité Saint-Maurice, une petite cité ouvrière dans le quartier. Vers 21h, une patrouille de la BST, la brigade spécialisée de terrain, débarque, matraque à la main, et face à ça, les quatre jeunes prennent la fuite. Ils escaladent un mur donnant sur les voies et se font happer par un train sur la ligne Lille-Calais-Dunkerque. Selom et Mathis vont succomber à leurs blessures. Les deux autres, Ashraf et Aurélien, seront très très grièvement blessés. Le soir même, la machine médiatique et politique, comme toujours dans ces cas-là, se met en place, avec un seul et même objectif, chercher à disculper les forces policières et criminaliser les victimes.
On a donc voulu entendre la famille et les amis des victimes pour balayer les mensonges de la préfecture et des keufs, tenter de lever le voile sur ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là et préciser un peu les suites de l'enquête en cours. Pour ça, on est avec la famille de Selom, deux potes de Selom et Mathis qu'on remercie d'être là. Il y a également des militants du crime et de la brique. Le crime, c'est le collectif contre la répression des individus et des mouvements d'émancipation. Ils ont publié très vite sur la toile un communiqué face aux aberrations publiées dans les médias, en livrant le témoignage des deux rescapés, Aurélien et Ashraf, qui attestent de la présence policière ce soir-là, contrairement à ce qui se disait alors.
La Brique, quant à elle, elle a publié deux articles dans son dernier numéro à propos de FIV, enfin deux articles consacrés à FIV. L'un qui est directement centré sur le traitement médiatique de cette affaire, qui a été orchestrée par la Voix du Nord en répétant les propos de la préfecture et des keufs, et qui s'intitule « Selom et Mathis, la VDN fait le SAV des flics ». Et un autre article d'analyse et un peu plus contextuel qui revient, lui, sur les déploiements policiers qui sont à l'œuvre à l'échelle du quartier depuis septembre dernier, avec des patrouilles, armes de guerre en bandoulière, des stationnements de cars de CRS sur la place de Jeter à Five et sur la place Collier à Collier, et des contrôles d'identité permanents dans les rues du quartier.
Dans cette émission, on va revenir à la fois sur les circonstances de l'accident, mais aussi sur l'intensification des déploiements policiers, le traitement médiatique de l'affaire. La première heure de ce témoignage est diffusée sur Radio Campus et vous pourrez retrouver la totalité de l'enregistrement en ligne sur les sites de la radio, de la Brique, du Crime, d'Indie Media et ailleurs sur des sites de copains. En faisant la recherche sur les internets en tapant Selom Mathis, FIV, un maximum de bruit.
Peut-être rappeler quelques chiffres des violences policières parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se banaliser là. J'allais dire depuis une dizaine d'années, mais en fait non, c'est beaucoup plus ancien que ça. En tout cas, il y a le journal La Brique là qui a repris une affiche avec les victimes des violences policières depuis 15 ans, entre 2000 et 2017. C'est quand même 205 personnes qui sont mortes lors d'interventions policières. On en parlait tout à l'heure justement en préparant un petit peu les choses. C'est à peu près 5 personnes qui meurent par an autour des années 2000. Autour des années 2010, on arrive à peu près à une dizaine de personnes, voire 15 par an. Et là, récemment, les chiffres continuent à monter. Et on est plutôt autour de 15, voire 20 personnes par an. Du coup, voilà, c'est quand même assez ahurissant. Donc, parler de bavure dans ces cas-là, c'est plus que déplacé. Ce qu'on se rend compte, en fait, c'est qu'il y a un racisme d'État qui est en train de se mettre en place et que la police, en fait, est là pour l'orchestrer. Voilà, donc il y a quand même quelque chose qui est extrêmement inquiétant. Il y a de nombreuses victimes en région, sur lequel on peut peut-être, dire un mot, parce qu'en fait...
Alors déjà, il faut voir qu'il y a deux cas de figure, à mon sens. C'est qu'il y a des victimes où il y a une mobilisation qui s'est faite autour de leur mort. Puis après, il y a d'autres victimes dont on ne connaît pas exactement les circonstances de la mort ou où il n'y a pas eu de soutien autour de ces affaires-là. Donc moi, je vais me concentrer un peu sur des histoires qui ont eu lieu ces dernières années dans l'agglomération ou dans la région. Je vais commencer par le cas de... Là aussi, Aitongar, qui habitait à Montigny-en-Goël, à côté des Nimbomont, qui s'est fait descendre devant chez lui tôt le matin de 5 balles. Son frère et un collectif Vérité et Justice pour la Houssine, depuis 5 ans, essayent de porter ce combat et avec des résultats qui sont. Alors, il y a eu des mobilisations, il y a eu des manifestations, mais la justice fait la sourde oreille. Et voilà. Sur l'agglomération, on a le cas aussi, alors qui remonte à quelques années, d'Hakim Djelassi, qui, lors d'une arrestation, vivant dans une camionnette de policiers, et en sort mort. Là, pareil, il y a eu, c'était quelqu'un qui venait du quartier de Churchill, à côté du Vieux-Lille. L'été dernier, il y a eu aussi une mobilisation dans le même quartier suite à une intervention policière violente dans le quartier. Il y a Baguette, un gars du quartier qui était très populaire, qui a eu un accident, comme on dit, qui ressemble fort à un pare-chocage de la police. Alors évidemment, les caméras qui filmaient là sont révélées ne pas tourner. Il y a eu une manifestation, il y a des plaintes en cours, mais comme toujours dans ces affaires-là, ça donne la justice. Ça ne veut pas dire qu'il soit bien pressé de résoudre ce genre d'affaires. Plus récemment, en décembre dernier, l'affaire Selomé Matisse. Donc la région connaît ce genre de triste histoire.
Ces événements, ces violences policières, elles sont systématiquement traitées par les médias dominants de façon à ce que la violence de la police, on ne puisse pas la cadrer comme quelque chose qui est systémique. À chaque fois, les personnes sont les victimes, les personnes qui décèdent, elles sont criminalisées et présentées dans les journaux, en tout cas de telle façon à ce qu'on puisse se demander si elles n'avaient pas une culpabilité quelque part préalable à leur mort. Et c'est pour sortir de cette lecture fait diversaire qu'on souhaitait faire cette émission, et aussi pour donner la parole aux premiers concernés. Pour cadrer un peu plus précisément la discussion, on va peut-être vous demander de nous parler un peu du quartier, donc de FIV. Comment on peut faire une présentation de ce quartier? Comment vous le présenteriez?
Moi, ça fait maintenant près de 10 ans que j'habite à FIV. Donc je le vois évoluer, je vois le quartier évoluer, je vois le quartier changer. Et là maintenant, on dirait qu'on est devenu, pour moi, mon ressentiment, c'est que maintenant, FIV, pour moi, c'est une zone de guerre. On se balade dans la rue, il y a les CRS d'un côté, il y a les gendarmes de l'autre, on est constamment surveillé, on est insulté, on est rabaissé par la police, constamment, tout le temps, les contrôles systématiques, des insultes. Pour moi, franchement, à la base, pour moi, je trouve que c'est un quartier plutôt calme, mais c'est les gens, les autres personnes qui vivent pas ici, justement, qui nous jugent, et qui jugent que, voilà, FIV, c'est un sale quartier, il y a des trafiquants, les gens, ils en ont marre, mais c'est parce qu'ils nous connaissent pas, ils nous jugent avant de connaître le quartier. Bon, moi, c'est mon ressentiment vis-à-vis de... Mais j'adore le quartier de FIV, moi, personnellement.
Et qu'est-ce qui fait que le quartier de FIV, il est chouette, en fait?
Bah, déjà, les habitants, ils sont bien. Franchement, on a de tout, il y a une bonne population. On est bien, il y a un bon mélange de générations, de cultures. Et ça, moi, j'adore ça. Donc, vas-y, tiens, je te laisse continuer.
La diversité culturelle du quartier aussi, c'est un truc que j'aime bien. Et puis, c'est... Le quartier, je le sens pas. Pour moi, c'est pas un quartier où il y a règne violence. Le quartier stigmatisé. La présence policière, pour moi, elle sert à rien, parce que c'est pas comme si... je sais pas, faut arrêter, parce que... Déjà, la présence policière, pour moi, elle est pas normale, parce que ils sont censés être là pour la sécurité, mais c'est tout sauf le cas. Il y a les contrôles aux faciès, les contrôles abusifs. Tout le temps, tu marches dans la rue, tu t'es contrôlé direct parce que t'as une sale gueule pour eux. Soit t'es trop bronzé, t'es habillé comme un délinquant, alors ça y est, ils pensent que t'es un dealer, ils pensent que t'as je sais pas combien de grammes sur toi, et ils te tutoient, ils t'insultent, il n'y a même pas un dialogue, ils te disent pas « bonjour monsieur, vos papiers s'il vous plaît », c'est pas un discours... Ils prennent la confiance, ils ont cru qu'on était leurs potes et ils nous parlent mal. Et on en a marre de ça aussi.
Ouais, c'est se faire tutoyer, se faire appeler par nos prénoms, quoi. C'est des policiers, on a l'impression que quand ils nous contrôlent, ils nous connaissent, quoi. Ils connaissent nos vies. Non, c'est un respect. On nous dit à chaque fois, nous, de les respecter, que eux commencent déjà par nous respecter, nous, et après, nous, on les respectera. Parce que quand ils nous contrôlent, c'est tutoiement, c'est... ils nous claquent contre les murs, ils sont sans pitié. Ça, il faut que ça s'arrête. Moi, la police, ils veulent qu'on les respecte, qu'ils nous respectent, nous, d'abord. Sans respect, ça ne marchera jamais. Et c'est pas en étant là à la place, en faisant des contrôles, systématiquement à la tête, comme mon copain l'a dit, c'est en fait c'est à la tête du visage. Il voit un mec arriver avec un costard cravate, lui il va passer tranquille, nous on arrive derrière en jogging, c'est directement mis sur le côté. Donc ça, moi, j'en ai marre.
Ouais, c'est pas normal aussi, si la façon de t'habiller, tu te fais contrôler par rapport à comment tu t'habilles. T'es en survêt ou t'as une casquette et t'es capuché, on te dit contrôle direct. Alors que là, comme il a dit aussi, un costard cravate, lui, on le contrôle pas. Ou celui qui a la bonne petite tête du bon citoyen modèle, il se fait pas contrôler. T'as une barbe, tu te fais contrôler aussi. Et on dit pourquoi les jeunes ils courent, parce que déjà on n'a pas envie de se faire insulter, de se faire frapper, et aussi on en a peur aussi de se faire embarquer, parce que quand on se fait embarquer, on en a peur, c'est grave d'en arriver là, mais on en a peur pour notre vie, parce qu'on se dit on sait pas ce qui va se passer, on est tout seul avec eux, ils peuvent nous frapper, ils peuvent nous étouffer en nous étranglant ou en faisant ils sont sauvages.
Moi je peux le confirmer, j'en ai vécu l'expérience. C'était lors d'un contrôle. Et moi et un ami, on s'était fait arrêter. Enfin arrêter, mais vraiment comme dans les films, quoi. Et ils nous ont mis dans la voiture. Et ils nous ont dit, ouais, tant que vous avouerez pas ce que vous avez fait, on vous emmène. Ils m'ont emmené dans un parc, derrière la porte des postes, et j'ai eu deux côtes cassées, le nez cassé. Et j'ai passé 8 heures en garde à vue, juste pour qu'ils viennent me dire à la fin, bon, en fait, t'es innocent. Mais j'ai quand même eu deux côtes cassées. Donc, franchement, les policiers, c'est vraiment la tête du visage. C'est même pas, ils cherchent même pas à comprendre. Ils voient deux jeunes dans la rue, ah tiens, c'est eux qui ont forcément... Mais moi, j'ai eu deux côtes cassées, mon ami a eu trois côtes cassées, la jambe cassée, une épaule démise. Et ça, personne n'en parle, ça. Et après, on nous dit d'aller porter plainte contre eux. Ça va changer quoi? Ils vont voir un jeune en jogging porter plainte contre la police, ils vont dire bah c'est les policiers qui ont raison. Ils vont pas nous donner raison à nous, ils vont les mettre en avant et nous ils vont nous rabaisser encore. Et ça.
Oui, moi je veux rebondir sur ça parce qu'il y a quelque chose qui m'a choqué. Le soir où on a fait la veillée au lendemain de la mort de Célan et Matisse, et à la place de Guter ici, et j'attendais les policiers. De loin, avoir un langage, on dirait des délinquants. Donc, du style, si je te revois ce soir, je te nique, des choses. Toi, on dirait, quand on les voit pas en habit de police, on dirait des délinquants, des gens qui n'ont aucune éducation. Et je me disais, le soir, là, je dis, mais c'est ça notre police? Et je pense qu'il y a véritablement des questions à se poser au jour d'aujourd'hui sur cette police-là et son comportement vis-à-vis des jeunes. C'est très important. Donc on a l'impression que c'est des délinquants qu'on a rhabillés en policiers. Et cela, c'est très inquiétant. On ne peut pas, on vit dans un pays de droit, on vit en démocratie, on ne peut pas accepter qu'une police se comporte ainsi. Il y a des lois, eux, c'est les premiers à respecter les lois. Donc, si eux-mêmes, ils se comportent comme des délinquants, qu'est-ce qu'ils peuvent exiger de cette jeunesse à qui ils reprochent des choses? Donc, le problématique, il est là. Il faut vraiment qu'on dénonce ces choses-là pour qu'on ait une police compétente demain, juste avec en phase avec la population.
Si je peux revenir un peu sur la question du quartier, je pense que cette présence policière, il faut l'interpréter aussi dans un cadre un peu plus large, qui est alors spécifique à FIV, mais qu'on retrouve partout ailleurs. On le retrouve dans d'autres endroits à Lille et dans plein d'autres villes. La question de l'insécurité dans des quartiers comme FIV, c'est un quartier populaire de longue date qui s'est construit autour d'usines de sidérurgie, qui a été séparé de la ville par la construction des voies de chemin de fer, puis du périph'. Mais qui a quand même un petit avantage par rapport à d'autres quartiers, c'est qu'il n'est pas si excentré que ça. En deux coups de station, on est à côté d'une gare TGV qui peut nous permettre d'aller à Paris en une heure. Ce qui fait que le quartier, d'un point de vue immobilier, il est assez attractif. Je veux dire, quelqu'un qui est cadre et qui a envie d'acheter une baraque à Lille et pouvoir aller à Paris facilement, FIV, il peut être tenté de s'y installer. Et les promoteurs le savent bien, et on retrouve la même situation à Oisem, par exemple. Les promoteurs le savent bien. Et par contre, s'ils veulent arriver à vendre ici, il faut, pour que ces gens-là s'installent, Bah, il faut nettoyer le quartier et la présence policière, il faut vraiment l'interpréter aussi dans ce sens-là. Le but du jeu, c'est que les jeunes foutent le camp de la rue. Les habitants du quartier qui déménagent, qu'ils aillent voir ailleurs, c'est ce qu'on appelle la gentrification, hein, c'est remplacer les gens d'un quartier populaire par des populations plus aisées, plus insérées dans l'économie, et trucs comme ça. Et la présence policière et le traitement médiatique des violences ici, il faut le comprendre comme ça. Par exemple, le dispositif policier qui a été mis en place avant la mort de Selom et Matisse ici, et à Oisem également, a été fait entre autres parce qu'il y a eu un compte Twitter qui n'arrêtait pas de se plaindre des jeunes et qui interpellait Martine Aubry. Il y a une pétition de riverains qui a été lancée, qui a été signée. Alors on va savoir si c'est des riverains qui signent ou des fachos qui habitent à l'autre bout du département, ça on ne peut pas vraiment savoir. Enfin, un truc un peu bien orchestré. Dès la mort de Selom et Matisse, ce compte Twitter a disparu. Les gens qui l'ont monté, on ne sait absolument pas qui c'est. Et donc, ça a justifié la présence renforcée de policiers et de CRS ici, sous prétexte de trafic de drogue. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de trafic de drogue ici. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème avec les jeunes. Hein. Évidemment que ça fait du bruit, les motos trial qui passent et compagnie. C'est sûr que ça fait du bruit, que ça peut gêner, je dis bien. Mais il y a vraiment cette politique de rénovation urbaine derrière. Là, ils sont en train de construire des trucs à Fifkai énormes. Et il s'agit d'attirer une autre population et de changer la population du quartier. Et ça, c'est des trucs qu'on constate, politique de rénovation urbaine, on le constate en toile de fond dans beaucoup de violences policières. Donc ça, je pense que c'est un truc qu'il faut souligner. Quoi.
Les habitants, ils ressentent ça. C'est l'immobilier...
En fait, ils veulent nous mettre dehors. Ils veulent nous mettre dehors de chez nous, de notre quartier, pour faire venir des gens... faire revenir une bonne population. Des gens qui travaillent, des gens riches et tout ça.
La gentrification du quartier.
La gentrification. Et nous mettre dehors, nous, de nos propres rues, de notre quartier. Ça, et c'est pour ça que les policiers, entre guillemets, sont là pour nous pousser vers la sortie.
Ils veulent dégager les ouvriers pour faire ramener les bobos, en fait, c'est ça.
Et pour ça, ce qui fonctionne bien, en fait, c'est de stigmatiser le lieu et les personnes qui y vivent. Et ça, la Voix du Nord, elle y participe depuis des années. Enfin, on a fait une revue de presse assez approfondie pour mener l'enquête et du coup pour voir un peu avant le déploiement policier qui s'est mis en place cet automne. Il y a des dizaines d'articles, dont de nombreux sur FIV, qui présente le quartier comme s'étant transformé avec davantage de kebabs, davantage de coiffeurs, et voilà, où il y a des petites phrases sous-entendent aussi que ces commerces, on se demande comment ils peuvent survivre, il y en a tellement. Et puis quelques phrases plus loin, on précise en fait que c'est un quartier où il y a du trafic de drogue. Et voilà, au lecteur de faire la suite du chemin dans sa tête et de se dire donc forcément tout est lié. Et il faut absolument nettoyer le quartier. C'est ça que le message que porte dans ces pages La Voix du Nord. Et c'est ça qui permet, à force de lire que FIF, c'est un quartier qui est dangereux et qui doit changer et qu'on doit sécuriser, à force de le lire, ça légitime l'action des politiques. Et donc, c'est pour ça que Martine Aubry, elle a eu un tel retentissement quand elle a demandé, quand elle a interpellé le ministre de l'Intérieur au printemps dernier pour avoir plus de moyens, et pour notamment plus de moyens policiers. FIV, donc c'est ce qu'on appelle un quartier prioritaire parce qu'il y a tous les indicateurs sociaux en gros qui sont dans le rouge. C'est aussi ce qu'on appelle une zone urbaine sensible. Du coup, il y a des violences, il y a du trafic. Donc, ça permet de justifier une concentration des moyens sur FIV et donc pas dans les autres quartiers. Donc il y a beaucoup, beaucoup plus de moyens policiers et aussi d'équipements policiers dans le quartier. Et donc,
les taux pour armer les policiers, ils ont les sous qu'il faut. Mais pour aider les quartiers, justement, nous aider, nous, ils en ont pas.
Mais c'est des choix politiques, en fait. C'est que quand on regarde un peu les directives au niveau des directives des politiques de la ville, donc qui sont les mêmes pour toutes les villes, à Lille, le choix, c'est de concentrer les moyens sur la police. On pourrait les concentrer ailleurs, sur un accompagnement des personnes, sur de l'éducation, sur voilà. Et c'est pas ça qui est fait.
Et je vais revenir aussi dans le sens de ce que vous dites concernant cette politique d'urbanisation. avant la marche blanche, j'ai rencontré Sébastien Duhem. Donc, j'étais à la mairie.
Maire de quartier.
Et maire de quartier. Donc, et vous savez, on a commencé à parler de l'affaire de Selon. Et la première phrase qui m'a sortie dit nous sommes conscients que nous sommes occupés de nettoyer le quartier du FIV, le secteur FIV, et nous sommes conscients que certaines personnes soient stigmatisées. Ouais, donc, c'est quelque chose que eux-mêmes, et ils ont mis en place et pour effectivement appliquer cette politique-là. Parce que de là, parce que là, il faut aussi faire très attention. Moi, j'ai vécu avec ma famille, mes enfants, dans ce quartier à Colly, précisément. Et donc, on a habité rue Jean-Jacques, après rue Kepler. Donc, on connaît très bien le quartier. On a fait plus de 10 ans là-bas. Et on ne peut pas parler de violence ou des choses, des comportements bizarres dans ce quartier. Non, 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 il n'y en a pas. Donc, voilà. Maintenant, quand on veut appliquer une politique et on invente des histoires pour dire qu'il y a tel trafic, il y a des choses comme ça, pour dire que c'est une zone sensible, tout ça, c'est de la politique. Nous, on a vécu là-bas, entre voisins et tout ça, il y avait toujours de la bonne ambiance, l'école à côté. Donc, il n'y a aucune violence qu'on peut dénoncer sur ce quartier-là, bien avant. En tout cas, avant que moi je quitte ce quartier, il n'y a rien de cela qu'on pouvait dénoncer. Donc maintenant, si eux, ils veulent, comment dire, ils organisent une soi-disant, stigmatisation d'une certaine population pour les faire dégager. Donc ça, c'est des choses à dénoncer et à être véritablement virulent contre une politique pareille. On ne peut pas, du jour au lendemain, décider d'enlever, c'est-à-dire que certaines personnes n'ont pas droit aux cités. Non, c'est ça, il faut, on est tous pareils, que tu sois riche ou pauvre, on peut vivre ensemble. Il est hors de question que demain, pour une certaine politique, pour encore une fois une histoire d'argent, on décide d'enlever certaines populations. Là, ça, non. Moi, je crois qu'on doit véritablement être virulent face à une politique pareille.
Et aussi, juste pour dire qu'il n'y a pas que FIV qui est concerné sur la métropole par ce genre de situation. Quand on regarde le déploiement spécial qui a été monté, le déploiement de force qui a été monté, l'autre quartier sur lequel sont déployés les CRS qui se baladent avec des armes de guerre, comme ça, c'est Oisem, où il y a une présence de CRS en permanence. Et quand on va sur le site de la MEL, le site de la métropole, il y a une petite page qui est très intéressante qui s'appelle Sécurisation Jules Guedde, qui explique que la rénovation de la rue Jules Guedde a comme priorité de sécuriser le quartier. Donc là, on voit très clairement le lien entre la rénovation de la rue Jules Guedde et la sécurité, quoi. Et c'est quoi la rue Jules Guedde, pour ceux qui ne connaissent pas? La rue Jules Guedde, c'est une rue, c'est clairement une rue où il y a une présence maghrébine forte, affirmée, pas que, hein, il y a aussi des boutiques asiatiques, trucs comme ça, c'est une rue qui est très vivante. Alors effectivement, il y a des problèmes de deal, effectivement, il peut y avoir des problèmes de délinquance, mais là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est clairement de... La petite page sur le site de la mail, il est très clair. C'est la présence policière a pour but de rénover le quartier pour que les gens qui habitent le quartier, ils foutent le camp. C'est pas dit aussi clairement, mais ça se lit très très facilement. Et c'est une situation qui est très comparable à celle de FIV. Et le cas de Oisem, quartier populaire, proche de la gare TGV, où il y a une volonté de nettoyer le quartier, de rénover les appartements, de construire à fond. Alors, Oisem, en ce moment, ça construit à tour de bras, ça rase à tour de bras, il y a des chantiers, des grues, des pelleteuses partout. On est clairement dans cette optique-là, quoi.
Pour résumer, c'est que, pour revenir sur FIV, c'est que ça fait plusieurs mois, en fait, qu'il y a des choix politiques qui sont faits, Claude le rappelait tout à l'heure, à travers les propos de Sébastien Duhem, le maire de quartier. Donc ce sont des choix politiques qui visent à stigmatiser le quartier et effectivement à virer certaines populations, d'une part. D'autre part, il y a des déploiements policiers qui sont en place sur le quartier depuis septembre, de manière répétée, avec des cars de CRS qui stationnent sur la place Collier, qui stationnent sur la place de GTR, juste ici, à côté du bistrot. Deuxième chose, et puis troisième chose, il y a la Voie du Nord qui fait le taf et qui fait enfin, qui retranscrit dans ses colonnes la parole de la police. Et en fait, quand on revient à la situation de ce qui s'est passé avec Selom, Mathis, Aurélien et Ashraf avec l'accident du TER, c'est quand même ahurissant de lire les propos qui sont transcrits dans la Voix du Nord à travers les deux faits diversiers Dufresne et Dutoit, par exemple, lorsqu'on cherche à stigmatiser et à criminaliser les deux victimes. Par exemple, Selom et Mathis, dans la Voix du Nord, aucun d'entre eux ne serait a priori scolarisé. Alors, formidable. Et là, c'est simplement un petit extrait, mais en fait, constamment, on cherche à criminaliser les deux victimes. Donc moi, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu, si vous voulez bien, sur qui était Selom et Mathis. Puisqu'en fait, c'est la Voix du Nord qui nous dit qui était Selom et Mathis. En gros, c'était des délinquants. Ashraf, Aurélien, pareil. Et donc, en creux, ce qu'il y a derrière, c'est bon, bah, finalement, l'accident, ça devait arriver.
Bon, bah, déjà d'emblée, tout ce que la Voix du Nord vous a dit concernant Mathis Selom, vous enlevez ça de votre tête. C'est pas ça du tout. Selom a fait une formation, il a fait l'armée, il est entré à la fac pour faire un DAU, voilà. Mathis était à Bajot, donc deux gamins scolarisés, voilà. Aucun antécédent judiciaire, rien du tout. C'était des gamins comme tous les gamins, qui avaient envie de vivre, qui avaient envie de profiter de la vie. Franchement, la Voix du Nord, vous êtes planté sur ce coup-là. Vous cherchez d'autres victimes parce que vous êtes vraiment planté. Vous avez franchement... Enfin... C'est même... Vas-y, parce que je vais m'énerver.
Ce qui les embête au jour d'aujourd'hui, cette police et cette politique-là, c'est que on ne peut rien reprocher à nos enfants, Selom et Mathis. Il n'y a rien. Et ça, j'ai remarqué, dès qu'on a eu affaire avec la police, ça, c'était quelque chose qui les embêtait énormément. Vous voyez, donc au jour d'aujourd'hui, il n'y a rien. Ce n'étaient pas des délinquants. Et c'est l'homme avait des projets et il venait de faire une formation en jeu. C'est son dada, il aime ça, la programmation, le développement. Donc ils ont sorti un jeu qui est en ligne, qu'on peut, tout le monde peut télécharger. Et moi, je compte faire évoluer ce jeu-là plus tard. Donc il y avait un dynamisme au niveau de Selom et qui est aussi accentué par la brillante scolarité de ses sœurs. Il y a sa petite sœur qui suit Selom directement. Aujourd'hui, elle fait la SICO, elle est à l'université. Et la Benjamin est pas son bac cette année. Tout ça, c'est porteur. On n'est pas une famille où les enfants sont des délinquants ou des choses comme ça. Sur Selom, il n'y a rien. Et ça les embête. De toute façon, nous, on ne lâchera pas. Donc, on a nos avocats. Et tous ces gens-là, demain, vont devoir répondre. Sur cette politique-là, et sur le comportement de la police au moment du fait, des faits, parce qu'on sait très bien qu'ils étaient là. Au départ, à 1h du matin, le téléphone qui sonne.
15 décembre, du coup.
Oui, 15, entre le 15 et 16 dans la nuit. Donc, moi, j'ai le téléphone qui n'arrêtait pas de sonner, donc je décroche, c'est ma fille donc qui m'annonce que voilà, c'est l'homme soi-disant à l'hôpital. Moi je sortais de mon sommeil, j'avais du mal à croire. C'est quoi? J'ai dit non, comment ça? C'est, le simple fait même de penser à ça, je dis non, ce n'est pas possible. Donc je prends mon courage, je prends ma voiture, je vais chercher. Ma fille et sa maman, donc mes deux filles, on va à l'hôpital. Et chose bizarre, bon, peut-être que c'est comme ça se passe. C'est la police, c'est des hommes en armes qui nous ont accueillis à l'hôpital. Donc, je suis choqué par ça, j'ai été choqué, on a été choqué par ça. Et donc, il nous apprend que c'est comme ça. Déjà, ils ne voulaient rien nous dire et tout. Et on sentait leur comportement très bizarre. C'est-à-dire, d'emblée, on a été interpellés par quelque chose. C'est-à-dire, ils avaient un comportement qui n'était pas normal. Donc, et on a insisté et pour se voir dire que oui, votre fille a eu un accident avec le train et tout ça. Donc, et même ça, il a dû tourner sa langue. C'est la première fois dans ma vie que je vois quelqu'un tourner sa langue. Je connais l'expression, mais voir quelqu'un tourner sa langue dans sa bouche avant de parler, c'est la première fois que j'ai vu ça avec ce policier-là. Donc, parce qu'il voulait, c'est-à-dire, il voulait dire quelque chose, il a dû tourner sa langue pour ne pas le dire et nous dire, ouais, il a été heurté, il a eu un accident avec le train. Donc, du coup, même mes filles, après, m'ont dit, mais ils nous prennent pour des cons ou quoi, ces gens-là. Parce que, visiblement, on voyait qu'il y avait un problème, un souci dès le départ. Vous voyez ? C'est-à-dire, d'emblée, la première chose, c'est qu'on s'est confronté à une situation où on se disait, non, il y a un problème, il y a quelque chose. Vous voyez ? Donc, après, bon, on a vu c'est l'homme et tout ça, et il y a eu qu'on ne pouvait rien faire pour lui. Et chose aussi troublante, ça on s'en est pas aperçu tout de suite. On voyait deux personnes comme ça à l'hôpital déambuler entre nous et tout ça. Et chose bizarre, le jour où on fait notre dépôt de plainte, on voit Peggy et Maman Selom, allez, on a tous les deux reconnu ces deux personnes au commissariat et comme étant des flics. Ouais. Donc
les deux personnes qui étaient présentes à l'hôpital
étaient en réalité des flics. Donc il y a un comportement. Même au jour d'aujourd'hui, moi-même, j'ai du mal à me rendre dans un hôpital parce que l'ambiance qu'on a vécu à l'hôpital était vraiment traumatisante. C'est-à-dire, ça aussi, je vais revenir, on reviendra là-dessus, comment dans un milieu hospitalier, on laisse la police avoir ce genre de comportement. Ça, c'est aussi un problème à relever, ça. Donc, voilà. Donc, moi, c'est comme ça, j'ai vécu la mort de l'accident et la mort tragique de mon fils. Et voilà.
Ben, moi, je vais rejoindre ce que le papa a dit. Effectivement, il y avait ces... Quand on est arrivé à l'hôpital, ça a été... Pour moi, ça a été un gouffre. Parce qu'à un moment, quand la police a parlé du train, on m'avait perdu. J'étais couché par terre, je pleurais parce que... On imagine tout, les catastrophes. On imagine des choses horribles, le corps, machin. Ensuite, effectivement, ces deux policiers qui... Moi, je pensais que c'était la famille de la maman Mathis, pardon. Et elle pensait que c'était de ma famille. Et au final, c'était personne du tout. Et non, ça a été... après, on m'a perdu parce qu'apparemment, j'aurais fait une absence assez...
Non, pas longtemps, mais...
Ouais,
en fait, ce qu'on appelle... c'est le déni. Donc, tu voulais pas reconnaître ce qui se passait. Donc, moi, ce que j'ai fait, parce que dans une situation comme ça, c'est de t'amener à prendre conscience du fait. Donc, je t'ai amené vers cet homme et qui était sur... lit avec des appareils comme ça. Et on avait ça aussi, c'est quelque chose. Moi, j'ai travaillé dans le milieu hospitalier. On avait une dame, c'est la personne qui a s'occupé de nos enfants, et un sinistre personnage. Et elle était d'une violence avec nous en ce qui concerne cet homme. Et j'ai appris aussi qu'elle était pareille avec la maman Mathis. Et je crois que les gens ils n'imaginent pas comment dans des situations comme ça, comment c'est un comportement très très violent. Et dans le milieu médical, la formation qu'on reçoit, c'est de tenir compte de cette phase psychologique des personnes quand on les reçoit, de savoir leur parler. Mais cette dame, d'emblée, elle a été très très violente avec nous en ce qui concerne les pronostics vitaux pour nos enfants. Et je pense que ça aussi, c'est inhumain en fait.
Je rentre du travail, tout ça, j'ai un peu Beaumont, il me repasse un coup de fil, je viens devant le commissariat, la gendarmerie, ils ont fait un truc de ouf à ton frère, tu commences ça. Maintenant, je suis en route, il m'appelle, il me dit écoute, le gendarme, je suis ton frère. Je crois que j'ai à dire n'importe quoi, n'importe quoi. J'étais avec mon téléphone hier, donc comment ça? Dis gros, je suis ton frère.
B. James, ANFALSH.
On arrive dans le commissariat, il y a du monde dans le commissariat, il y a ma mère. Justice acquis. Puis voilà, nous on voulait, on a. À 18h, ma mère elle est partie. Elle dit oui, est-ce que je pourrais voir Adama? Elle dit oui, il va très bien. On lui a donné à manger, à lui et Baggy, Adam et Baggy, ils vont très très bien. Nous on dit, ça nous prend pour des cons, on veut voir notre fils, on veut voir notre frère, tout ça. Et c'est quoi?
5-6 heures après, ils nous disent qu'il est décédé. Depuis 18 heures. Alors qu'à 18 heures, on leur a ramené un grec. Ils mangent, lui, ne vous inquiétez pas, ils vont être très bien manger, tout ça. Voilà, ils vous menti. Vous êtes chez ton frère.
La police assassine et la justice acquitte. C'est comme ça que je me définis, tout comme la plupart de nos ruelles. Je tiens à chaque arme que je possède, comme à la précieuse prunelle de mes yeux. Allez donc dire à ces messieurs les censeurs que lorsqu'on nous attaque, c'est 100 fois plus violent qu'on renvoie l'ascenseur sur ceux. Ils rêvent de démantèlement pendant que je rêve de comprendre pourquoi les coups soi-disant partis accidentellement tuent tellement. Rien de plus dur qu'être une caïra. J'ai le profil type du type qui canne d'une balle dans le crâne dans un obscur commissariat. La Gestapo policière prolifère. Presque toutes les altercations se terminent par un frère à terre. Donc à terme, c'est notre ex-terre. Mination programmée, ils souhaitent qu'on disparaisse comme des preuves de leur culpabilité. Avec leur cul, je me dis que nos probabilités de survie sont maigres. Pour eux, condamner un flic, ça n'a aucun sens comme nos vies. Donc à l'évidence, survivre dans ce contexte peut s'avérer complexe. Lorsqu'on nous attaque, on a que la violence comme moyen de défense.
C'est nous qui avons perdu quelqu'un. C'est Adama qui est mort dans des conditions atroces dans les locaux de la gendarmerie.
Nous, on a vu le corps 3 jours après. Et ils ont dit à la famille, on sait que vous êtes musulmans et que chez vous, on enterre vite les corps. Donc ce qu'on peut vous proposer, c'est que même ceux qui n'ont pas de passeport, on peut vous faire partir tous de Roissy pour le Mali. Et c'est là que la famille elle a demandé une contre-expertise, parce que on savait qu'il n'était pas mort de crise cardiaque à Adama. On a fait nos propres démarches et nous, on a réussi à prouver que c'était un mensonge de leur part.
La police assassine et la justice acquitte. Ici, c'est ainsi qu'on console une mère quand son fils la quitte. Ils veulent faire croire que les coups partent tout seuls, comme si les armes de la volaille tueuse étaient toutes défectueuses. La police assassine et la justice acquitte. Ici, c'est ainsi qu'on console une mère quand son fils la quitte. Ils veulent faire croire que les coups partent tout seuls, comme si les armes de la volaille tueuse étaient toutes défectueuses.
On vient pour la vérité, pour la justice. On vient pour des droits.
France, terre d'accueil, je doute fort que ce soit ce que pensent tous ceux que les bleus cueillent et qui quelques heures après ressortent dans des cercueils. Toi qui souhaites être des leurs, qu'on nomme homme de couleur, n'oublie jamais, tu seras victime d'ostracisme si tu refuses le racisme. Ici on consacre son temps au massacre, des peuples à peau acre. Tu ne diras pas, c'est stipulé nulle part dans leur contrat. Donc contraste entre leurs scènes de yes et nos scènes de deuil. Le cancre croit la monnaie de leurs pièces avec encre et feuille. L'innocence ne paye plus. Effectivement, tu peux te faire descendre en descendant de chez toi par un flic parce que ton faciès ne plaît pas. Renoir, tu peux t'accrocher au fait que tu n'aies rien à te reprocher. Ça te garantit en rien de ne pas finir à mocher. T'as bien tort si tu te sens pas concerné. La banlieue est déjà cernée, les issues de secours fermées. Voir le jour dans le noir entre deux tours. Condition idéale de plus pour être plus pour l'insurrection que contre et contre la soumission. Cousin. La police assassine et la justice acquitte. Ici, c'est ainsi qu'on console une mère quand son fils la quitte. Ils veulent faire croire que les coups partent tout seuls, comme si les armes de la volaille tueuse étaient toutes défectueuses. La police assassine et la justice acquitte. Ici, c'est ainsi qu'on console une mère quand son fils la quitte. Ils veulent faire croire que les coups partent tout seuls, comme si les armes de la volaille tueuse étaient toutes défectueuses. Une pensée pour tous nos frères morts entre leurs mains. En France, aux States ou ailleurs, le scénario reste toujours identique. C'est la règle de l'impunité qui s'applique. Le génocide va bon train. Ici on fait le tri en évacuant le trop plein. Sans dans la scène, sans dans les geôles de la police républicaine. T'étonnes pas que je sois enclin à tant de haine. C'est tout à fait normal. La mélanine attire les balles comme les mots attirent le métal. On vit dans un pays libre, mais si t'es Renoir, méfie-toi frère, la France fait de la prévention avec des calibres. Rien de plus banal qu'une balle dans un corps d'Africain. Sache que le tribunal ne dira rien si la victime est noire et l'assassin a rien. Pas le genre à tenter l'autre joue, j'ai déjà pris bien trop de coups. Une existence en zigzag pour éviter leur balle et les flags. Lorsqu'un flic meurt, moi je me dis que c'est potentiellement une vie d'épargner dans nos rangs. Un deuil de moins pour nos parents, tu connais la dernière. Ils veulent de l'argent pour leurs orphelins. Pendant qu'on enterre nos morts par nos propres moyens. Toujours les mêmes qui finissent dans le corbillard. Tamat et banlieusard, par conséquent, orpho police de peut-être un canular. La police assassine et la justice acquitte. Ici c'est ainsi qu'on console une mère quand son fils la quitte. Ils veulent faire croire que les coups partent tout seuls, comme si les armes de la volaille tueuse étaient toutes défectueuses. La police assassine et la justice acquitte. Ici c'est ainsi qu'on console une mère quand son fils la quitte. Ils veulent faire croire que les coups partent tout seuls, comme si les armes de la volaille tueuse étaient toutes défectueuses.
En tout cas, toutes les personnes qui sont là, toutes les personnes qui sont venues, on les remercie encore mille fois. Et le combat continue, la cour Adama.
La police assassine et la justice acquitte.
Je voudrais revenir un peu sur le traitement médiatique des premiers jours de l'affaire.
Oui.
Donc, il y a, pour resituer, on est cité Saint-Maurice. C'est une petite cité ouvrière au bord de la voie de chemin de fer à Collier. Donc, c'est l'homme, Matisse, Aurélien, Ashraf discutent entre eux. Après, c'est là où les versions diffèrent, hein, entre la version Voie du Nord, police, préfecture, puis la version des gens, enfin des survivants et de leur famille, et de la famille des victimes. Intervention de police, ils fuient, ils passent sur les voies, un TER passe, ils sont écrasés. La Voie du Nord publie un article assez rapidement, reprenant uniquement les informations que lui ont données la police, à savoir c'est un accident. Il n'y a aucune raison qui est donnée à la présence des jeunes sur la voie. Le lendemain, à Collier, des voitures brûlent. Le transport arrête les métros qui desservent le quartier. Et la Voie du Nord en parle. Alors qu'est-ce qu'elle dit ? Il y a des voitures qui ont brûlé à cause d'une rumeur. Alors la rumeur, par contre, ça, il n'est pas question de dire la rumeur. On parle de tragique. Alors, et il continue comme ça les trois premiers jours avec des articles où on n'évoque absolument pas. On dit qu'il y a une rumeur, mais on ne dit même pas quelle rumeur. On ne dit même pas que c'est lié à la mort de Selom et Matisse. Et c'est seulement parce que Aurélien, trois jours après, alors qu'il est sorti de l'hôpital avec le bassin déplacé et blessé, il est encore en fauteuil roulant et il parle à France 3 et il donne sa version en disant qu'ils ont fui parce qu'ils ont vu six policiers arriver sur eux avec des matraques. Et là, ça pose un problème. Il y a un rassemblement qui a lieu, dont Claude parlait, sur la place des Jeter. Et donc là, le problème commence à se poser. Et là, il commence à être à peu près avéré que la Voix du Nord raconte n'importe quoi. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils font un article, au bout de 4 jours, c'est le tragique accident, on récapitule, on fait une chronologie des 4 premiers jours.
Un retour sur les faits.
Un retour sur les faits.
Ils n'ont jamais été énoncés.
Sauf que les faits, ils ne les avaient jamais énoncés avant. Et là, ils sont bien obligés, vu que sur France 3, ça avait parlé, que les gens commençaient à se rassembler, ils étaient bien obligés de dire qu'il s'était passé quelque chose en rapport avec la police, même avec du conditionnel. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont effacé tous leurs premiers articles, pour pas qu'on voit le traitement médiatique qu'ils ont fait des premiers jours. Et c'est seulement parce que sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui les ont interpellés en disant « pourquoi vous effacez les premiers articles ?» qu'ils ont été obligés de les remettre après. Donc il y a vraiment, j'insiste un peu là-dessus, le traitement médiatique joue vraiment un rôle très important dans l'affaire. D'autant plus que quand on regardait, alors évidemment si on a des articles comme ça en disant « ouais, les jeunes, je sais pas quoi, FIF, c'est tout pourri », c'est quoi les commentaires en dessous des articles ? C'est des centaines de commentaires de gens qui, ça se trouve, ne sont même pas dans le coin. Je veux dire, c'est pas des voisins. Ça se trouve, c'est des mecs qui habitent, des vieux cons qui habitent à Nice, hein, qui écrivent des saloperies sous les commentaires. Et c'est le même truc. C'est des petits jeunes, c'est des dealers, c'est des racailles. Ils l'ont bien cherché. S'ils ont couru, c'est qu'ils avaient des trucs à se reprocher. Et c'est que de ça, des torrents de commentaires comme ça, de gens qui sont absolument pas concernés par l'affaire, qui n'en savent rien du tout, qui n'ont comme information que ce qu'ils ont lu dans La Voix du Nord et leur amour de la police. Et c'est que de ça, c'est que de ça. C'est des torrents de merde de gens qui calomnient les victimes.
C'est clair.
Et c'était vraiment, moi, c'est un truc qui m'a profondément choqué. Quoi.
Ouais,
pas surpris, mais choqué.
De toute façon, Selom et Matisse, ils ont été stigmatisés directement par la Voix du Nord en étant des délinquants, des trafiquants de drogue, c'est-à-dire des dealers d'héroïne, de cocaïne. Moi, je connais Selom, j'ai squatté avec lui, jamais de sa vie, il aurait touché à ça. C'était un mec en or, franchement, avoir... Tout ce que la Voix du Nord a mis sur lui, c'est archi faux. Et ça, moi, franchement, la Voix du Nord, il me dégoûte. Et je me battrai jusqu'au bout pour leur faire cracher la vérité. Qu'ils disent enfin la vérité dans leur journal et qu'ils arrêtent de leurs commentaires mensongers sur Selom et même sur Matisse. Donc, franchement, là, j'ai une haine envers la Voix du Nord, mais puissant.
Le problème de la Voix du Nord, c'est que... Enfin, non seulement le mal a été fait en parlant avant tout d'une rumeur et non pas d'une version différente, parce que c'est quand même de ça dont il s'agit. Utiliser le mot rumeur, ça sous-entend que non seulement ils n'expliquent pas que la rumeur, ce serait une présence policière, mais le fait de parler de rumeur, ça la rend fausse d'emblée. Donc ça, c'est vachement grave. Ce qui est vachement grave aussi, c'est qu'ils relaient, ils disent « Oh ben, une des victimes survivantes a parlé d'un raccourci. Ils auraient pris les voies pour prendre un raccourci. Ils n'ont même pas eu la présence d'esprit, ce qu'a fait France 3, et je pense que c'est là aussi qu'ils ont commencé à s'emberlificoter, à se tirer des balles dans le pied, à raconter n'importe quoi, c'est qu'il n'y avait pas de raccourci possible et envisageable, parce que derrière les voies, il y avait l'autoroute. Et a priori, ce n'est pas un endroit sur lequel on se rend pour se balader. Donc il y a eu ces versions-là. Donc parler de rumeurs, c'était dangereux. Parler de raccourci, c'était n'importe quoi. Et en plus, en racontant que les victimes n'étaient pas scolarisées... Enfin, en fait, on jette le discrédit sur les victimes. Et avant même qu'il y ait une voix portée par la population, par les amis, par une mobilisation qui met en cause la police, avant même ce moment-là, la police, elle est déculpabilisée.
La police, est, pour moi, à 80% responsable de la mort de Matisse et de Selom. Donc, ils étaient là sur les lieux. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas intervenir sur les rails.
C'est à cause d'eux qu'ils ont couru aussi. Ouais. Si la police ne se montrait pas aussi violente vers les jeunes, on ne courrait pas.
Connaissant Selom, il n'aurait jamais couru comme ça devant les policiers. Si les policiers seraient venus, ils lui auraient parlé tranquillement, ils auraient fait un contrôle. Normal, là, ils viennent avec des matraques à la main pour courir.
Bah, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'a priori, ils sont jamais polis, respectueux. Bah oui, enfin, et que du coup, à partir du moment
où
ils vous interpellent et tout, du coup, le réflexe, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. On va pas
rester sur place. Moi, je vois des policiers venir avec une matraque vers moi et je reste pas assis en attendant qu'ils arrivent.
Tu vas pas te laisser te faire frapper, du coup.
Donc voilà. Mais direct, ça s'est passé ça, stigmatiser des délinquants.
Juste parce que tu habites à FIF, t'es un délinquant de toute façon.
En fait, moi, c'est par rapport à la présence policière, là, c'est que le 18 décembre, quand on est allé une première fois pour faire un dépôt de plainte, donc on a rencontré le commandant Haroun qui nous disait que ce bon monsieur. Après toute vérification, hein, il a bien dit insister sur ce mot-là, après toute vérification, et c'est la police qui mène les investigations, qui fait toutes les vérifications possibles, qu'il n'y avait pas de présence policière au moment du drame.
Ça, c'est la deuxième version. Au départ, c'est
raccourci. Non.
Après, il n'y a pas de présence
justement,
policière.
Justement, oui. Raccourci. Et pas de présence policière du tout. Ce qui est même le procureur... dans son communiqué, il disait, et c'est le 19, le lendemain, quand on est retourné pour maintenant faire notre dépôt de plainte, parce que bon, il nous a quand même dissuadé le 18 de ne pas faire ce dépôt de plainte parce qu'il y avait.
Vous pouvez rappeler un peu les circonstances des premiers dépôts de plainte?
Oui, c'est parce que pour lui, il n'y avait pas lieu de faire un dépôt de plainte parce que c'est lui qui mène les enquêtes, qui dirige tout. Et que ces hommes sont occupés de faire des auditions, donc que lui voyait très bien où je voulais en venir, parce que en faisant un dépôt de plainte, donc mes avocats pouvaient avoir accès au dossier, donc comme quoi, pour l'instant, il n'y a rien dans le dossier, donc ça ne servait à rien de faire un dépôt de plainte. Donc, bon, j'ai dit...
Donc c'est eux qui décident on dépose plainte ou si on ne dépose pas plainte. Et si ça vaut le coup de déposer plainte.
Justement, donc, voilà. Bon, moi, ce que je l'ai dit, donc, je dis, de toute façon, je vais revoir mes avocats. Si eux, ils disent que je dois déposer plainte, je reviendrai le lendemain déposer plainte. Donc c'est ce qui s'est passé.
Juste vite fait. Et à savoir que la maman Matisse, on ne l'a pas autorisée à porter plainte, mais pas du tout.
Oui.
Ils ont ça sert à rien, portez pas plainte. Non, c'est elle n'a pas pu. Et on sait qu'elle n'a pas pu, elle n'a pas pu porter plainte. Hein.
Alors, moi, je voudrais juste sur un détail juridique. Dans des cas comme ça, il y a deux manières de faire. Soit on se déplace au tribunal en personne et on porte plainte en son nom, soit on prend un avocat et l'avocat fait une procédure directement au parquet. Et en vrai, vaut mieux cette deuxième solution. Parce que là, la plainte ne peut pas être refusée, ça passe par le parquet directement. Enfin, on ne va pas se faire cueillir devant, à l'accueil d'un commissariat où les gars vont refouler ceux qui veulent porter plainte. Donc, le mieux à faire, c'est quand même de prendre dans ces cas-là, c'est de prendre un avocat, et c'est l'avocat qui s'occupe de la procédure de plainte sans que ça passe par la police.
Oui.
Avant d'aller pour la plainte, avant qu'on puisse porter plainte, on a été accueillis par la De Saï et son collègue.
Oui.
Explique, parce que ça s'est vraiment passé, mais d'une façon... éprouvante. En fait, quand on est arrivé dans le bureau, déjà d'emblée, elle nous dit « Moi, je ne suis pas là pour prendre votre plainte. » Déjà, parce que nous, quand on nous a appelés, on venait pour porter plainte. On nous accueille, on pense venir porter plainte. Mais non, que Nini. Elle était là parce qu'elle était à charge des charges et elle allait nous auditionner. Ça, on n'a pas compris, parce que des gens se font auditionner à l'endroit où nos enfants, quand même, c'est eux qui sont un peu... Voilà. Donc, on arrive dans ce fameux bureau. Donc, déjà, c'est un peu déstabilisant parce qu'elle nous claque d'emblée qu'elle n'est pas là pour prendre la plainte, mais pour nous auditionner. Donc, moi, ça me déstabilise complètement. J'étais crevée, j'en pouvais plus de toutes ces conneries, en fait. C'était un truc... voilà. Donc, de fil en aiguille, elle nous pose des questions. Elle nous dit, bah, voyez... elle a vraiment, ce qu'elle a fait en fait, elle a essayé de diviser pour mieux régner en fait. Elle a essayé de nous mettre de son côté par rapport à Ashraf et Aurélien, ce que j'ai trouvé ça ignoble en fait. Elle a dépeint un tableau des deux gamins, mais le plus pourri, le plus noir possible, et en nous disant que nous, nos enfants, voilà, ils étaient bien, il n'y avait pas de soucis, nanana. En fait voilà, l'ange et le démon, et c'est les démons, ils sont vivants mais pas les anges en fait. C'est une traduction que je fais, hein. Mais voilà, nos enfants, c'était les anges, et manque de peau, ils sont décédés. C'est comme les deux. C'est vrai, ce qu'elle nous a fait, c'est un truc. C'était ignoble, ce qu'elle a fait. Moi, j'ai trouvé ça ignoble. Elle a vraiment. Et quand, à un moment, souviens-toi, quand elle t'a dit, ah, je connais pas votre enfant, quand tu lui as montré une photo, souviens-toi de sa réaction. Oui. On a montré une photo. C'est pas anodin, on lui a montré une photo, c'est l'homme avec sa tenue de l'armée. Ça peut déstabiliser. Corps de métier, quand même, elle a plus ou moins le même costume, entre guillemets. On lui a montré la photo, elle a détourné son regard avec une vitesse, mais non, je vais pas le voir. Ça prouve que ça l'a interpellée. Je pense qu'au fond d'elle-même, elle a pris conscience qu'elle est occupée de salir des gamins, de foutre en l'air des gamins, juste pour pouvoir sauver sa peau et celle de ses hommes, quoi. Et ça, c'est ignoble.
Oui, on était accueillis dans cette stratégie-là. Donc, d'emblée, on nous dit... vous allez entendre des choses que vous n'allez pas aimer, ouais, donc on vous prépare, on vous conditionne à ce qu'on va vous annoncer. Et, sauf que là, ils ont quand même été soft, je dirais, parce qu'ils n'ont pas osé, non, ils n'ont pas osé nous dire que, c'est-à-dire accuser ces hommes de vendre de l'héroïne, vous voyez. Ils n'ont pas dit comme ça. Ils ont dit, on a trouvé... près de 4000 euros avec vos enfants. Ils disaient vos enfants avaient près de 4000 euros sur eux. Bon, on n'a pas vu le lien, au fait. Nous, on ne voyait pas directement le lien qu'ils voulaient faire, c'est-à-dire que les enfants avaient une certaine somme d'argent sur eux, donc ils étaient occupés de dealer, quoi. Mais bon, ils nous ont quand même dit, ouais, vos enfants, ils venaient souvent là-bas, les riverains n'étaient pas contents. Donc, ils ont monté des choses comme ça. Et on voyait très bien qu'à un moment donné, ils ont essayé de charger Ashraf et Aurélien en disant que ces deux enfants, ils étaient connus de nos services, ils ont un dossier comme ça. Ils ont un dossier comme ça sur eux, et c'est là où ils nous disent, mais vous, votre fils, il est clean et il est inconnu de nos services, là, qu'est-ce qu'il faisait là-bas?
Il y a quand même l'histoire aussi, quand ils nous ont dit, c'est pas les deux bons gamins qui sont morts.
Ils ont dit, ouais, c'est que c'est pas les deux bons gamins qui sont morts. Ça, je pense que avoir des propos comme ça, c'est inhumain. Et comme je disais à la marche blanche, aucun enfant ne vient dans ce monde écrit sur son ventre dealer de drogue ou fumeur de joint ou des choses comme ça.
Il y a deux choses en fait. Il y a le fait que sur FIV, la présence policière, elle est justifiée par le trafic de drogue. L'action de la police, elle est justifiée comme ça par les pouvoirs publics. Sauf que ce qui a été décidé, donc le plan mis en œuvre pour lutter contre la délinquance et plus spécifiquement contre les trafics de drogue, donc la Voix du Nord en a longuement fait la pub à longueur de colonne, c'est calqué sur le plan antidrogue de Marseille. Et c'est ce qu'on rappelait à l'apéro Bric et dans les pages. En fait, le seul résultat qu'il y a eu à la politique de sécurisation à Marseille, c'est le trafic de drogue, il est stable. Les règlements de compte, ils ont augmenté. Et le trafic l'exploitation d'enfants aussi, l'exploitation de mineurs.
Oui, tout à fait.
Donc il y a ça d'une part. Et d'autre part, c'est aussi une grosse hypocrisie
de l'État,
de cibler des quartiers, parce qu'en fait la drogue il y en a dans tous les quartiers déjà.
Bien sûr. Quand c'est des petits bourgeois qui prennent de la cocaïne, voilà, ça passe, il n'y a pas de problème. Ah,
ça. C'est ça, et puis c'est jamais présenté comme ce que c'est en fait les personnes qui sont dans ces trafics, c'est qu'en fait c'est du travail. Mais du coup c'est toujours les mêmes qui sont criminalisés, c'est toujours les mêmes qui ont affaire à la police, et c'est toujours les mêmes qui vont finir en taule ou qui vont se faire
Aurélien et Asraf, on ne peut pas les criminaliser. Pour moi, ce sont aussi des victimes, ce sont nos enfants. C'était à nous, en tant que parents, de les...
Pas que nous, Claude. Nous, on a notre part de responsabilité.
Quand je dis nous, la société... Hein,
enfin, on ne va pas faire des bottes. Non, mais, oui, je comprends ce que tu veux dire, mais nous, en tant que parents, effectivement, on a donné une certaine ligne de conduite. La seule que je regrette, c'est d'avoir fait le mouton, je te le dis franchement, par rapport à tout ce qui s'est passé. La police, tu connaissais mon point de vue. Voilà. Maintenant, je ne crois plus au système, je ne crois plus à rien. Je crois seulement qu'il faut condamner... Voilà. Nos enfants, on leur a donné une ligne de conduite. Maintenant, ils vivent dans une société.
Bien sûr.
Et cette société, excuse-moi, elle ne donne pas la chance, ou même à tous les jeunes. Donc, Aurélien Ashraf, faut arrêter, quoi. Les gamins, on leur a pas donné les mêmes outils. Tu vois, on les a d'emblée stigmatisés en disant ouais, bah, lui, c'est une famille nombreuse. Lui, non, stop, on arrête ces dégâts. On arrête ça.
Ouais, c'est de ça.
Moi, je pars du principe, tout gamin qui naît, il doit avoir la même chance qu'une famille de bobos, l'égalité des chances.
Lettre à la République, à tous ces racistes à la tolérance hypocrite qui ont bâti leur nation sur le sang. Maintenant, ces riches ont d'honneur de leçons. Pilleurs de richesses, tueurs d'Africains, colonisateurs, tortionnaires d'Algériens. Ce passé colonial, c'est le vôtre. C'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre. Et maintenant, vous devez assumer. L'odeur du sang vous poursuit, même si vous vous parfumez. Nous, les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard. Tout arrivé à son départ. Vous avez souhaité l'immigration, grâce à elle, vous vous êtes gavé jusqu'à l'indigestion. Je crois que la France n'a jamais fait la charité. Les immigrés, ce n'est que la main-d'œuvre bon marché. Gardez pour vous votre illusion républicaine de la douce France bafouée par l'immigration africaine. Demandez aux tirailleurs sénégalais et aux harkis qui a profité de qui. La République n'est innocente que dans vos songes. Et vous n'avez les mains blanches que dans vos mensonges. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard. Tout arrivé à son départ. Mais pensez-vous qu'avec le temps, les négros muterés finiraient par devenir blancs? Mais la nature humaine a balayé vos projets. On ne s'intègre pas dans le rejet. On ne s'intègre pas dans les ghettos français parqués entre immigrés. Faut être censé. Comment pointer du doigt le repli communautaire que vous avez initié depuis les bidonvilles de Nanterre? Pyromane et pompier, votre mémoire est sélective. On n'est pas venus en paix. Votre histoire est agressive. Ici, on est mieux que là-bas. On le sait parce que décoloniser pour vous, c'est déstabiliser. Et plus j'observe l'histoire, ben, moi je me sens redevable. Je sais ce que c'est que d'être noir depuis l'époque du cartable. Bien que je ne sois pas un crash, je n'ai pas envie de vous dire merci. Parce qu'au fond, ce que j'ai ici, je l'ai conquis. J'ai grandi à Orly, dans les favelas de France. J'ai fleuri dans les maquis, je suis en guerre depuis mon enfance. Narcotrafic, braquage, violence, crime. Que font mes frères si ce n'est des sous comme dans Claire Stream? Qui peut leur faire la leçon? Vous, abuseurs de biens sociaux, détourneurs de fonds, de vrais voyous au constat, bande hypocrite. Est-ce que les Français ont les dirigeants qu'ils méritent? Au cœur des débats sans cœur, toujours les mêmes qu'on pointe du doigt dans votre France des rancœurs. En pleine crise économique, il faut un coupable. Et c'est en direction des musulmans que tous vos coups partent. Je n'ai pas peur de l'écrire, la France est islamophobe. D'ailleurs, plus personne ne s'en cache dans la France des xénophobes. Vous nous traitez comme des moins que rien sur vos chaînes publiques. Et vous attendez de nous qu'on s'écrive vive la République. Mon respect se fait violer au pays des droits de l'homme. Difficile de sentir français sur le syndrome de Stockholm. Parce que moi je suis noir, musulman, banlieusard et fier de l'être. Quand tu me vois, tu mets un visage sur ce que l'autre France déteste. Ce sont les mêmes hypocrites qui nous parlent de diversité, qui expriment leur racisme sous couvert de laïcité. Rêve d'un français unique avec une seule identité. S'acharnent à discriminer les mêmes minorités face aux mêmes électeurs. Les mêmes peurs sont agitées. On oppose les communautés pour cacher la précarité. Que personne ne s'étonne si demain ça finit par péter. Comment aimer un pays qui refuse de nous respecter? Loin des artistes transparents, j'écris ce texte comme un miroir. Que la France s'y regarde si elle veut s'y voir. Elle verra s'envoler l'illusion qu'elle se fait d'elle-même. Je suis pas en manque d'affection, comprends que je n'attends plus qu'elle-même.